Bonjour à tous. Merci pour les prières. Besoin d'être rafraîchi par le Seigneur après une nuit mouvementée. C'est la vie avec un petit bébé aussi. Mais voilà, je me remets devant Dieu pour ce moment avec vous. Et pour démarrer, je vais laisser la parole à un autre que moi. Dans le sens où ce ne sont pas mes mots, je les ai inventés. Oyez, oyez, bonjour et bienvenue dans notre église. Ici, il n'y a pas une vérité, mais celle qui vous correspond. Ici, vous apprendrez à créer votre vérité ou suivre celle de nos fabuleux enseignants. Nos responsables sont issus de la belle tradition judéo-chrétienne, mais ils n'en ont gardé que l'essentiel. Et sauront vous enseigner selon votre besoin. Après tout, l'important, c'est vous. Nous avons su, au cours des années, dépasser les enseignements de la Bible et retrouver des écrits qui datent plus ou moins des temps bibliques, mais qui sauront vous correspondre et vous faire plaisir. Emmenez vos familles dans notre église, du plus vieux au plus jeune. Nous vous dirons comment avoir un foyer, une famille qui répond aux commandements des enseignants de notre église. Et surtout, n'oubliez pas vos cartes bleues. Nos prédicateurs ont des bornes sans contact au dos de leur Bible. Après tout, ils passent du temps à nous prodiguer leurs fameux enseignements et à nous transmettre leurs commandements. Gloire à eux. Vision fictive, réalité. Ce matin, nous allons lire un passage de la Bible qui remet les points sur les i à ce genre d'annonce. Cette vision que je viens d'énoncer peut malheureusement être la vision de certaines églises dans notre monde aujourd'hui. Elle l'était en tout cas dans certaines églises de Crète, dans les premiers temps de l'église, à l'époque de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul passait une partie de son temps à défendre, à défaire ce genre d'hérésie. Et il n'était pas seul. Il avait une équipe qu'il formait, et notamment un certain Tite, un jeune homme prometteur, fils spirituel de Paul. Il était chargé de former des responsables d'église fidèles à la parole et intègres dans le pays crétois. Et vous l'aurez compris, le contexte n'était pas folichon. Il y a du taf, notamment à cause de ces faux enseignants qui recherchent le gain malhonnête, à cause d'agitateurs qui entraînent des familles. Retenez bien ça ce matin, des familles entières sont entraînées dans cela. Paul s'adressera à Tite dans une lettre et il ira jusqu'à lui dire, concernant ce contexte en Crète, concernant ces personnes en Crète, il dira à Tite dans le chapitre 1, il dira « Reprends-les, c'est le verset 14, reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une foi saine en ne s'attachant pas à des spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Mais pour les hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont salies. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles, et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. » Il faut, et Paul l'exprime à Tite, dans ce chapitre 1, il lui dit « Ta mission, c'est de mettre de l'ordre. » Voilà les mots de Paul. « Mets de l'ordre dans ce bazar. » Et pour ce faire, Tite va devoir faire ce qui peut être douloureux à faire. Il va devoir corriger. Il va devoir reprendre les faux enseignants et aussi les membres de l'Église. L'Église, après tout, ne repose pas sur ceux qui ont un ministère visible seulement. Si une église part en vrille, les membres ont leur entière responsabilité aussi. Et je dirais même plus aujourd'hui au XXIe siècle, où fleurissent les fables, les faux enseignements, les nouvelles visions du monde. Dans notre contexte encore plus aujourd'hui, nos responsables ont besoin d'avoir des membres qui recherchent eux aussi la vérité, qui vont sonder ce qui est pur, qui vont sonder ce qui est véritable. Ils ont besoin que les membres se responsabilisent eux aussi. Et à ce sujet, ça sera notre lecture du jour, en opposition au chapitre 1 de Tite, qui parle des disqualifiés, dont j'ai cité, à la pratique des œuvres bonnes, nous allons lire aujourd'hui le chapitre 2 et essaierons de voir comment être, à l'inverse, qualifié pour les œuvres bonnes. Alors ouvrez vos Bibles dans la lettre de Tite, enfin de Paul adressée à Tite plutôt, dans le Nouveau Testament. On est à la fin du Nouveau Testament et ceux qui n'ont pas emmené leur Bible, j'ai fait imprimer des textes. C'est Pris qui en distribue certains et Gabriel. Ça vous permettra, ceux qui n'ont pas leur Bible sous la main, d'avoir le texte, avoir la vue d'ensemble. Et c'est aussi un pense-bête à ramener à la maison. Tite, chapitre 2, nous lisons ensemble les 14 versets de ce chapitre. Voilà, signifiez-vous, si vous voulez, le texte en polycopier. Verset 1. Toi, et là Paul s'adresse à Tite, on n'oublie pas, toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Certains liront sainte doctrine dans leur version. Verset 2. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse, en leur apprenant à aimer leurs maris et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leurs maris. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même, en tout, un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable. Afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses. Qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude. Qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur, son zèle à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Tout un programme. Et donc, je vous disais, j'ai intitulé cette prédication « Qualifié pour toute œuvre bonne ». On a lu 14 versets et nous verrons que les 10 premiers versets ne peuvent être écoutés, au sens vraiment imprimé dans notre cœur, écoutés et appliqués que si les 4 derniers sont compris. Et c'est pour ça que dans une première partie, je vous propose d'aborder d'abord les 4 derniers versets. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on plongera dans les 10 premiers versets. Et l'objectif ce matin, c'est de voir que ce n'est que ancré dans une foi saine, comprise par le biais d'un enseignement sain, que le chrétien, que le disciple de Jésus, est capable de toutes bonnes œuvres. A contrario, et c'est la fin du chapitre 1, rebelle à un enseignement véritable, fondé sur une foi incertaine, ils sont incapables d'aucune œuvre bonne. Alors pour être qualifié, c'est ma première partie, pour être qualifié pour les œuvres bonnes, tout part d'une foi saine. Et j'utilise le terme qualifié pour les œuvres bonnes parce qu'il revient dans certaines traductions et je trouve qu'il est plein d'images, ce terme qualifié. Quand vous prenez la définition, par exemple, d'être qualifié dans le sport, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, qualifié, dans n'importe quel sport, c'est le fait de satisfaire un ensemble de critères pour pouvoir participer à une épreuve. Se qualifier, c'est ce qui donne le droit de participer à la phase ultérieure de la compète, de la compétition sportive. Et pour ceux qui le découvrent ce matin, je fais de l'escrime depuis des années. D'ailleurs, j'ai repris cette année, je trouve, un club d'escrime à Antibes. Imaginons maintenant que... Alors, l'escrime, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'épée. On combat en duel. Imaginons maintenant que j'ai envie de m'inscrire à une compétition. Et j'ai envie d'aller jusqu'aux phases finales de la compétition. Est-ce que pour arriver à la phase finale, ce qui va m'aider, c'est la qualité de ma lame, de mon épée ? Est-ce que c'est mon gant ? C'est grâce à mon gant que je vais accéder au 8e de finale ? Est-ce que c'est grâce à mes chaussettes, peut-être ? C'est peut-être mes... Vous savez, on a des grandes chaussettes blanches. C'est elles qui vont me permettre d'atteindre les 8e de finale, les quarts de finale, peut-être ? Non, à moins que ce soit mes chaussures Décathlon, bien blanches. Il faut que tout soit blanc en escrime. C'est peut-être ça qui va me conduire aux phases finales. Pas du tout, vous le savez, j'imagine. Pas du tout. Ce qui va m'emmener dans les phases finales, c'est la qualité de mon entraînement, de ma préparation physique, de ma préparation technique. C'est cela qui va m'entraîner et qui va peut-être m'emmener aux phases finales. En somme, c'est l'entraînement que m'a prodigué la belle école d'escrime d'Antibes. Le chrétien, le disciple de Jésus, ne peut être qualifié pour les œuvres bonnes. Et même, je dirais même, il peut comprendre les œuvres bonnes, ce que ça veut dire, ce que c'est, ce que Dieu attend qu'il pratique. Il peut le faire seulement si sa foi repose sur un entraînement sain, prodigué par ce que j'appelle l'école de la grâce. Et dont le programme est dans ces 4 derniers versets du chapitre 2. Le programme de l'école de la grâce. Et le premier mot, verset 11, regardez, de ces 4 versets, il est significatif. Dans certaines versions, vous avez « en effet ». Ça fait le lien avec ce qui est dit avant. Certains auront « car ». Vous pouvez être qualifié pour les œuvres bonnes, ou vous pouvez appliquer les 10 premiers versets même, « car » la grâce de Dieu. Manifeste en Jésus-Christ. Concrète en Jésus-Christ, cette grâce. Sauveur, verset 14, qui s'est donné en rançon, on l'a chanté, alors qu'on devait payer, qu'on doit payer par notre incapacité à nous qualifier justement pour les œuvres bonnes, par le péché dont Loïc a parlé. Lui, il s'est donné afin de nous rendre purs et enfin zélés pour les œuvres bonnes. On peut penser aux œuvres bonnes, on peut imaginer, comprendre ce que Dieu attend de nous, ce que ça veut dire l'œuvre bonne que Dieu veut qu'on fasse, seulement à cause de ce car, Jésus a payé le prix de notre incapacité à répondre complètement aux œuvres bonnes. Et cette grâce, ce n'est pas juste un concept qu'on se rappelle le dimanche matin, « Ah, merci pour la grâce, merci pour la grâce », c'est quelque chose de concret, on le voit avec ces versets. Concret parce qu'elle repose sur un acte qui a coûté, comme j'ai dit, et comme on l'a célébré, la mort du Créateur, du Fils unique. Ça, c'est un acte concret. Voilà pourquoi la grâce est concrète, palpable. Mais aussi parce qu'elle éduque, elle est active, cette grâce. Verset 12, elle nous éduque, elle nous enseigne. Comment elle le fait ? Comment pratiquement elle s'y prend pour nous prodiguer l'entraînement par excellence ? Eh bien, tout d'abord, on l'a lu en nous apprenant à dire non. Et en ce début d'année, vous avez peut-être fait des résolutions sportives. Vous avez dit, je vais faire du sport. Mais vous savez que faire du sport, ça passe par des renoncements. On est obligé de renoncer à certaines choses. Moi, par exemple, je ne vais pas le mercredi soir, c'est Chemin de Saint-Claude, je ne vais pas au club d'escrime le mercredi soir en m'ayant enfilé juste avant 3 pintes de bière aux 3 brasseurs et une tartiflette. Je ne fais pas ça avant chacun de mes entraînements d'escrime. Non, j'ai appris qu'il y a une certaine dose de renoncement pour se lancer dans cet entraînement. L'école de la grâce t'éduque, nous éduque à renoncer, verset 12. Renoncer à quoi ? Verset 12. Eh bien, à nous détourner, c'est d'abord ce que dit Paul, de ce qui nous écarte de Dieu. Et ici, Paul, il parle d'impiété. L'impiété, c'est l'inverse de la piété. En gros, Paul est en train de leur dire, il faut dire non à ce qui parasite votre agenda et qui t'empêche de prendre du temps avec Dieu. Et vous savez, c'est ces choses ni urgentes, ni vitales, mais qui nous détournent facilement d'un moment de qualité avec Dieu, à discuter avec lui, à l'écouter. Autre renoncement, toujours au verset 12, renoncer aux passions de ce monde, aux tentations du monde. Et là, la grâce, l'école de la grâce rentre dans le vif un petit peu, rentre dans l'art. Il s'agit de renoncer à ces péchés conscients vers lesquels nous sommes tentés de basculer bien des fois. Nous devons, et nous sommes entraînés par la grâce à dire non. La grâce de Dieu nous entraîne à dire non et nous entraîne aussi à dire oui. Toujours au verset 12. Dire oui à quoi ? Dire oui à une vie dans le temps présent. La grâce de Dieu, ce n'est pas dire oui à un petit village de chrétiens protestants évangéliques qui restent bien entre eux. Non, non, elle nous apprend à dire oui, à vivre dans le temps présent, mais d'une certaine manière, parée du jogging du club, la sagesse divine dont on a lu dans ce verset. Parée de la sagesse divine, nous vivons dans le monde présent. Et le jogging du club, il permet de savoir que, ah, pétard, un tel, il fait partie du club de pétanque de Cagnes-sur-Mer. Pour le chrétien, cette sagesse divine dont il est paré, ça doit se voir dans ce monde. On doit le sentir que ce gars, il fait partie de quelque chose d'autre, d'un autre monde. Et vous l'avez peut-être senti, peut-être des fois des gens vous ont dit, et ma sœur en témoignait encore il y a quelques semaines, mais peut-être fois des gens vous ont dit, mais toi, il y a quelque chose de différent. Alors que vous n'avez même pas de jogging sur vous, du club de pétanque. La sagesse divine se voit, et elle doit se voir. Ce n'est pas le cas. Si ça ne se voit pas, si on ne goûte pas que vous faites partie de l'école de la grâce, c'est peut-être qu'il faut se poser des questions sur comment on se pare de cette sagesse divine. Certaines versions parleront de sobriété. En tout cas, ce qui nous distingue des autres, de la pensée de ce monde. Dire oui aussi à une vie juste et droite, nous dit Paul. Et dans mes lectures personnelles, en ce début d'année, puis en fin d'année dernière, il y a un thème récurrent de la parole que Dieu m'a mis à cœur, c'est l'intégrité. Souvent, je lisais des passages où Dieu parlait de l'intégrité. L'intégrité, vous savez, c'est ce qui vous pousse à être droit, à être juste, équitable, au travail, dans votre foyer, dans votre couple. Vous savez, j'ai l'impression que c'est cette petite voix dans votre conscience qui vous dit est-ce que c'est réellement légal ? Hein ? Est-ce que c'est équitable ce que tu es en train de partager ? Est-ce que c'est droit ? Et l'école de la grâce vous invite à ne pas négocier avec cette petite voix qui vous invite à être intègre, à être droit, juste dans ce monde où la non-intégrité bat son plein. Et finalement, cette école nous invite à dire oui à une vie pleine de respect pour Dieu, toujours au verset 12. Alors si elle nous enseigne à dire non à ce qui nous empêche de prendre du temps avec Dieu, c'est bien pour nous enseigner oui, prends du temps avec Dieu. Saisis les choses qui te permettent d'être attaché à lui et d'avoir une vie pleine de Dieu. Et ce programme, c'est tout un programme, comme je disais, mais il est continu. Et le gars qui fait des compètes de sport n'arrête pas l'entraînement une fois qu'il a fini sa compète. Pour ceux qui font des compétitions, vous le savez, quand il y a une compète, vous continuez l'entraînement après, puis il y a encore une compète, etc. C'est un cycle continu. Le chrétien sur terre, à l'école de la grâce, il est en continu. Il se laisse modeler en continu, étape après étape. Jusqu'à un moment où, et c'est fabuleux, plus besoin d'entraînement, verset 13, ce moment où bienheureux, la bienheureuse espérance de Jésus, nous verrons Jésus revenir, nous serons avec lui à tout jamais. Et là, ça sera au contact même de la gloire de Dieu. Alors, pour nous qui sommes chrétiens ce matin, pour vous qui êtes présents, si des fois vous êtes bloqués dans la pratique des œuvres bonnes, peut-être vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, peut-être que vous manquez de zèle à servir Dieu dans l'Église, dans le monde, demandez-vous si ce n'est pas parce que vous avez mis de côté votre abonnement à l'école de la grâce, moteur de toute œuvre bonne. Vous aviez peut-être pris de bonnes résolutions, vous aviez saisi une inscription à cette école, mais vous avez laissé de côté vos rendez-vous quotidiens, cet entraînement. Imaginez un gars qui se pointe en finale de championnat de la Ligue 1, c'est pour toi Jérémy, en ayant suivi que 2 ou 3 entraînements de foot à la AS Courcegoul. Je pense que ça va faire mal quand il se retrouvera dans ses matchs face à Mbappé, par exemple. Je ne suis pas fan du PSG, c'est juste parce que voilà, c'est un grand joueur, il y en a d'autres. Mais lui qui n'a fait que 2 ou 3 entraînements de foot dans sa vie, se retrouver face à Mbappé ou à d'autres grands du football qui suivent des entraînements drastiques, il ne tiendra jamais un tel match face à l'adversaire. Une invitation, chers amis, à ne pas juste regarder la porte de l'école de la grâce, mais d'y entrer et d'y muscler votre foi en Jésus seul. Et vous serez surpris derrière d'y trouver d'autres compagnons, frères et sœurs, qui suent, qui transpirent, mais surtout qui s'y laissent modeler. Et qui, en plus, se filent une bouteille de breuvage, encore mieux que les boissons énergétiques, le Saint-Esprit, qui vient les drainer, qui vient les abreuver, les renouveler, alors qu'ils subissent cet entraînement, alors qu'ils se lancent dans cette carrière, dans cet entraînement. J'invite maintenant à observer les 10 premiers versets où là, on va parler d'un enseignement saint que Paul délivre. Après avoir vu une foi saine, on voit un enseignement saint qui dirige plutôt vers des œuvres elles-mêmes saines. Totalement à l'inverse de l'enseignement malsain qui peut être délivré par ces faux enseignements en Crète et qui rendaient incapables d'œuvres bonnes les Crétois chrétiens. C'est dur à dire. Et Paul souhaite que cet enseignement saint soit prodigué à tous, avec une emphase particulière sur les familles, comme je vous disais. Et quand vous lisez le chapitre 1, ceux qui ont leur Bible, regardez le verset 11 du chapitre 1, juste avant, vous voyez que des familles entières étaient bouleversées par les faux enseignements. Les familles n'étaient pas épargnées. C'était la zizanie dans les familles, elles étaient bouleversées à cause des faux enseignements reçus. Gardons ça en tête, on y reviendra. Et alors, il est urgent que Tite, et vous voyez les verbes à l'impératif, il faut qu'il dise, il faut qu'il parle, il faut qu'il recommande, il faut qu'il reprenne, qu'il exhorte tout le monde. Même ceux d'un certain âge. Au-delà de 40 ans, est-ce qu'on peut être remis en question dans l'Église ? David, on a la maturité, on a l'expérience. Les jeunes à la rigueur, parce qu'ils n'ont rien vécu. Ils n'ont rien expérimenté. Eux, il faut les enseigner dans l'Église, il faut même les reprendre. Mais nous, ou vu d'un autre angle, les vieux, enfin, je veux dire, ceux qui ont plus de 30 ans, il faut les remettre en place. Tu vois, les vieux, ils ont tout oublié. Ils n'ont pas accès comme nous à des événements chrétiens, à des camps chrétiens de qualité. Ils n'ont pas accès à des formations théologiques béton, les vieux. Ils ont moins compris ce que c'était la grâce. Ils sont trop dans les œuvres. Il faut les reprendre. Il n'en est rien. Jeunes et vieux des églises sont concernés par l'enseignement de Tite 2. Paul met tout le monde d'accord. Et ça démarre au verset 2. Tite, dis-leur aux hommes mûrs, dis-leur, verset 2. Et par homme mûr, il faut comprendre dans la force de l'âge, dans ce contexte-là. Les spécialistes disent autour de 40 ans, ça serait pour nous. Et ici, c'est des hommes qui sont pas juste des hommes destinés à être pasteurs ou anciens. Au chapitre 1, Paul il dit comment enseigner, comment doivent être formés les anciens, les pasteurs. Ici, tous les hommes sont concernés. Et la première chose que Tite doit leur enseigner, modération. Et c'est quelque chose qu'il doit enseigner à toutes les catégories d'âge, on le verra. Vous avez d'autres termes dans vos versions, dans les différents passages. Peut-être des fois vous avez lu « être modéré », donc « équilibré »,« sobre »,« maître de même », »,« un comportement digne ». Tout cela a la même racine, le même mot, et ça revient pour toutes les tranches d'âge. Modération. une invitation, si on est modéré donc, à rejeter l'impulsivité. Le disciple sait se poser, réfléchir avant de parler, avant d'agir, avant de défendre sa foi dans le monde. Ça fait réfléchir quand on sait que normalement, j'ai raison. J'ai la vérité. Modération, maîtrise. Rien que de dire ces deux mots, je sens la digestion de ces fois où j'ai dégainé trop vite avec un frère et une sœur, où j'ai dégainé trop vite avec un non-chrétien, alors que Dieu appelle dans son enseignement à la modération, à la maîtrise. Puis nos chers hommes mûrs sont invités à être honnêtes, respectables peut-être, vous avez lu. Et c'est un terme, le terme grec qui est en dessous, il apparaît que trois fois dans le Nouveau Testament. Les deux autres fois, c'est à destination des diacres ou des anciens dans l'Église, dans Philippiens ou Timothée. Mais là, tous les hommes mûrs sont concernés. En somme, ce n'est pas juste aux anciens et aux diacres de payer leurs impôts, de dire non au téléchargement illégal ou au travail non déclaré. Il y en a pour tous. Dis-leur à tous. Et enfin, ils sont invités à être pleins de force, nous avons lu dans le verset 2. Musclés, ils doivent être. Pleins de testostérone, pleins d'autoritarisme, pleins de machisme, qu'on sache qui c'est les patrons dans l'Église, c'est les hommes mûrs. Non. Que leur force soit remplie, regardez le verset 2, que leur force soit remplie de foi, d'amour, de persévérance, voire même de patience selon les versions. La patience, une vertu dont nous, les hommes, nous sommes au fait, on est à fond dans cette vertu-là. Mais vous voyez ce qui fait la force de ces hommes-là ? Rien à voir avec ce que le monde propose. Foi, amour, patience. Et c'est ce qui les fera tenir lorsque viendront les tempêtes dans l'Église. Et c'est ce qui même fera tenir avec eux les frères et sœurs. Lorsqu'il y aura de faux enseignants, lorsqu'il y aura peut-être des jeunes chrétiens, des jeunes convertis dans la foi qui n'ont pas autant de maturité qu'eux, ce qui les fera tenir, c'est ces grands frères dans la foi qui, eux, seront scellés, seront fondés dans cette dalle qui est la foi, l'amour, la patience. Voyez votre responsabilité, homme mûr de l'Église, l'eau dans laquelle on peut mettre ceux qui ont des années de vie chrétienne au compteur, les responsables de l'Église. Voyez cette responsabilité. Vous êtes nos musclors, nos super-héros. Pas besoin de faire de la muscu, pas besoin de collant moulant. Ça rassurera peut-être certains. Rien de tout ça, vous devez être scellés dans cette dalle de foi, d'amour, de patience. Les amis, prions pour eux. Prions pour eux. Parce que c'est par ces fondements-là qu'on pourra tenir, nous tous, aussi dans l'Église, avec la grâce de Dieu. Verset 3, dit aux femmes mûres. Et il démarre par « qu'il en soit de même des femmes âgées ». Peut-être est-il en train de dire ce que je viens de dire aux hommes mûrs. Bon, ça vaut aussi pour les femmes âgées. Et il démarre aussi avec ces femmes mûres par, encore une fois, qu'elles aient, verset 3, un comportement digne de Dieu. Et derrière, c'est la même racine, modération, tempérance, maîtrise d'elles-mêmes. Qu'elles soient maîtres d'elles-mêmes. Et puis, il rajoute quelques indications, on le voit très pratique. Hein. Tout d'abord, qu'elles ne soient pas médisante. Et Paul, il parle très clairement avec ce mot-là, médisante, de ces paroles qui font du mal. De ces paroles qui sont porteuses, qui véhiculent du mal. Je crois qu'il est facile d'imaginer chacun, que ce soit les femmes ou les hommes, hein, je pense qu'il est facile d'imaginer de quoi on parle avec ces paroles qui portent du mal. Vous savez, ces fois où on va dire du mal sur une sœur à une autre sœur. Ou plus finement, quand on va parler de la vie d'une sœur, à une autre, en suggérant des choses. Alors, il y a peut-être des fois de la maladresse, mais peut-être qu'il est temps de remuer cette fois sa langue dans la bouche avant de parler à quelqu'un de quelqu'un d'autre. Quelques questions à se poser. Est-ce que je suis légitime de parler d'elle à une autre ? Est-ce que j'ai même l'autorisation de cette sœur pour parler d'elle à une autre ? Autre question à se poser, est-ce que ce que je vais dire sur elle, est-ce que ça a pour but de glorifier mon Dieu ? Est-ce que ce que je vais dire sur elle, ça a pour but de faire rayonner l'évangile dans sa vie ou dans la vie de l'autre à qui j'en parle? Est-ce même édifiant pour notre Église, ce que je vais colporter auprès d'une autre? Autre indication très pratique de Paul, il les invite à ne pas s'adonner à la boisson. Pour les femmes de Crète, c'était concret, parce que dans le monde juif et grec de l'époque, l'addiction à l'alcool était très forte. Et là, il est en train de dire qu'il faut dire à ces femmes de tenir ferme et de ne pas s'adonner à la boisson. Je pense que la tentation à se jeter dans l'alcool est encore valable aujourd'hui. Surtout quand on voit les séries très féminines ou les films avec beaucoup de femmes, où ce qui toujours les réunit pour refaire le monde, parler de leur couple, leur famille, c'est une coupe ou être dans un bar. C'est peut-être des clichés, mais je trouve que ça communique des messages forts. Bois de l'alcool et tu verras, c'est ce qui permet de tenir ferme. En tout cas, une invitation très pratique là, à ne pas s'adonner à l'alcool. Et puis j'ai marqué le mot « mission ». Et ça, c'est essentiel dans ce verset. Elles ont une mission dans ces versets, elles ont une mission essentielle. Ces femmes mûres, elles doivent être des enseignantes, des formatrices pour la jeune génération de femmes qu'elles fréquentent. Elles doivent faire des disciples de jeunes femmes. Et quoi de mieux que des femmes pour apprendre à des femmes à obéir aux prescriptions de Jésus, pour reprendre Matthieu 28. C'est ce qu'il est en train de leur dire là, Paul. Et c'est même pas Tite qui s'en chargera. C'est les femmes mûres. Vous voyez cette responsabilité des femmes. C'est même pas toi. Paul est en train de dire, Tite, c'est pas toi qui vas t'en charger de ces jeunes femmes. Les femmes mûres, elles ont ce taf-là de faire des disciples parmi les jeunes femmes. Quelle tâche noble, magnifique. Et verset 5, Paul précise quand même à Tite ce que les femmes mûres doivent enseigner aux plus jeunes. Elles doivent enseigner, verset 5, à partir du verset 5, elles doivent enseigner, bon, déjà elles doivent être enseignables, les jeunes femmes, puisqu'elles se font enseigner par les femmes mûres. Être enseignable, c'est être prêt à écouter, à entendre l'enseignement de personnes plus expérimentées dans la foi. Et puis, invitation à la modération, encore, il y en a décidément, qu'elles soient maîtres d'elles-mêmes. Et puis, des conseils très pratiques, une vie de pureté. Peut-être pense-t-on à la pureté sexuelle, mais qu'en est-il de la pureté morale, éthique, théologique qu'elles doivent également aiguiser? Qu'elles soient des maîtresses de maison, bonnes et actives. Et là, Paul n'est pas en train d'enfermer les jeunes femmes dans leur cuisine, qu'on se le dise. Ça serait mal connaître Paul, ça serait mal connaître ce qu'il pense de la femme. Ici, Paul pousse les femmes mûres à enseigner les jeunes femmes à être irréprochables dans leur foyer. Surtout en ces temps où en Crète, les familles sont bouleversées, vous vous rappelez? Et on en a parlé au week-end d'église ensemble. L'orateur du week-end d'église disait... Finalement, est-ce que ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans l'Église, est-ce que ce n'est pas souvent le reflet de ce qui se passe dans nos maisons? Si c'est le cas, ô combien la maîtresse de maison a un rôle important pour le monde, pour l'Église. Tant dans la bonne tenue de la maison, mais aussi dans ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, l'éducation aimante des enfants, verset 4, il le précise, l'éducation spirituelle des enfants. Ou encore, je rajoute, l'accueil qui peut être fait dans cette maison. Et tout cela a pour but de voir des foyers, pas qu'ils soient flambant neufs et magnifiques parce que bien huilés, bien graissés, bien astiqués. Mais verset 5, tout cela dans le but de voir des foyers qui mettent en valeur la sainte doctrine, l'évangile. Voilà ce qu'il y a, tout ce qu'il y a derrière bonne et active. Et puis enfin, qu'elles soient soumises à leur mari. Et notons-le, il me semble que ça va de pair avec le verset 4 qui demande qu'elles aiment aussi leur mari, soumission dans l'amour. Et il ne s'agit pas d'un asservissement de la femme à l'homme, comme le diable voudrait le faire croire, mais plutôt une invitation pour elle à respecter l'homme, respecter le rôle que Dieu a donné aux hommes. Et dans ce cadre-là, on parle bien sûr d'hommes qui cherchent la face de Dieu. Je précise. Après les femmes mûres, les jeunes hommes, et là ça va très vite, il met l'emphase sur une chose, il reste très succinct, mais ça ne m'étonne pas au vu des jeunes hommes qui peuvent être zélés, vite, on part, impulsif, invitation à la modération. Et bien sûr, avec tout ce qui vient d'être prodigué avant comme enseignement, ils peuvent y regarder aussi et y piocher des choses. Et puis, quelques mentions spéciales dans les versets 7 à 10. Il s'adresse aussi, Paul, à Tite. Pour toi aussi, Tite, j'ai des choses à te livrer. Et il s'avère que Tite est un jeune homme, et en plus, responsable. Et en plus, responsable qui doit former des responsables. Mais lui aussi doit écouter cet enseignement, doit, à partir du verset 7, on le voit, il faut que ses œuvres bonnes servent de modèle. Il faut que son enseignement soit fidèle aux Écritures. Il faut que ce qui sort de sa bouche soit inattaquable. Et là, je m'adresse aux enseignants de cette église, aux diacres, aux anciens aussi. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter que « Seigneur, viens-nous en aide. Nous t'en supplions, au vu de la tâche et de nos faiblesses. Nous te supplions que le diable ne profite pas de nos failles pour s'immiscer dans les enseignements, dans les affaires de l'Église. » C'est d'ailleurs l'enjeu pour Tite, verset 8, « Que ta parole soit juste et inattaquable. » Donc, tout ça découle vers « Afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. » Que Dieu nous vienne en aide. Puis mention spéciale pour les serviteurs, il finit avec ça. Dans notre contexte, on pourrait aujourd'hui dire, de quelque sorte, qu'il s'adresse à tous ceux qui ont un patron au-dessus d'eux, et ceux qui bossent en freelance ou qui sont patrons dans la salle, vous savez que vous avez toujours un patron dans les cieux. Donc finalement, pas d'excuses, ça peut s'adresser à vous aussi. Et c'est très pratique les concernant, hein, vous voyez, ces serviteurs, qu'ils soient obéissants à leurs supérieurs, qu'ils ne soient pas contredisants au travail, même en France, qu'on puisse voir des chrétiens ennemis des magouilles, de la fraude, du vol dans l'entreprise, des chrétiens auxquels leurs patrons, et je rajoute leurs collègues, peuvent faire confiance. Voilà cet enseignement saint qui concerne tout le monde et que Paul confie à Tite afin qu'il le transmette. Un enseignement conforme à la sainte doctrine et qui a un impact sur les œuvres bonnes. Et vous le voyez, hein, il y a un aller-retour quand on lit les versets, notamment le verset 10, on voit que sainte doctrine vers des œuvres bonnes et les œuvres bonnes que nous faisons mettent en lumière la sainte doctrine. Il y a un va-et-vient permanent. Pour conclure, je dirais que ce chapitre est à digérer. Jour après jour, je crois qu'on a besoin de temps pour digérer de tels passages, à méditer peut-être cette semaine, un encouragement peut-être dans vos foyers, avec les personnes que vous fréquentez, les frères et sœurs dans la foi, peut-être méditer, peut-être en appelant une jeune sœur dans la foi, mesdames, peut-être en rencontrant un de vos frères, messieurs, confessant ensemble notre incapacité, votre incapacité à répondre parfaitement à cet enseignement, mais encouragé par notre modèle, le Christ, qui lui a incarné cet enseignement. Le Christ qui a toujours su être maître de lui-même, qui a toujours, par sa parole, conduit au Père et non dit du mal, qui nous a montré la voie de la foi, de l'amour, de la patience, qui n'a jamais péché, qui n'est que droiture, n'a été que droiture et justice sur terre, qui s'est soumis à la volonté du Père, qui a aimé l'Église jusqu'à la mort. C'est vers lui que nous regardons, c'est lui que nous supplions de nous épauler dans cette mission de vivre cette foi saine qui mène vers ces œuvres bonnes que Dieu a préparées. Je vais conclure en priant. Notre Dieu, notre Père, merci pour Jésus. Modèle suprême, sur qui repose notre foi, notre espérance, nos œuvres, et qui seul peut nous permettre de progresser dans cette quête à la pureté et la pratique d'œuvres qui soient bonnes. Nous faisons nôtres ces paroles de Paul aux Éphésiens et te les remettons en prière. Nous souhaitons parvenir en Église à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Parole d'Éphésiens 5. Que je...